Ceci est la troisième partie de l'interview d'Erwin de Jasse autour de sa thèse « La musique silencieuse » de Minos et Sampaio. Alors à la fin du deuxième chapitre de ta thèse, Erwin, tu évoques le contexte particulier de la bande dessinée en Argentine, qui va voir dans les années 50 se former des écoles de bande dessinée, qui vont fournir à l'industrie florissante de l'historiera de bons petits soldats de la mimésis référentielle, parmi lesquels on va retrouver José Muñoz et des professeurs comme Breccia ou Hugo Pratt. Peux-tu revenir pour nous sur cette période et des personnalités comme Enrique Lipsic ?
Oui, donc Lipsic, il dirige une école qui s'appelle la Escuela Panamericana de Arte, qui est d'ailleurs une des toutes premières écoles de bande dessinée au monde, qui n'ait jamais été créée, et qui est liée au contexte particulier de l'Argentine de l'après-guerre. Vu depuis les pays francophones, on voit un petit peu la bande dessinée argentine à travers des auteurs comme Breccia ou Muñoz et Sampaio, voire Hugo Pratt qui y a vécu 13 ans. Mais il faut voir que c'est d'abord une énorme industrie. On a une période qui va, grosso modo, des années d'après-guerre jusque la fin des années 50, pendant lesquelles, certaines années, on est, si mes souvenirs sont bons, à 165 millions de revues vendues par an. On a dans les kiosques, à certaines périodes, 60 titres qui sont vendus en même temps. Et certains tirent largement au-dessus de 300 000 exemplaires. Donc il y a vraiment un marché qui est colossal pour un pays qui fait à l'époque moins de 20 millions d'habitants. C'est considérable, c'est une industrie, et c'est une industrie qui a lorgné du côté de ce que se faisaient les Américains. On peut presque parler d'une forme de fordisme dans la manière de travailler. Et donc, effectivement, il y a la création de cette Escuela Panamericana, parce que Lipsic se dit, on va créer des auteurs qui sont capables de s'intégrer dans cette industrie. Je ne sais même pas si le terme auteur est plus adéquat, d'ailleurs. Peut-être peut-on parler d'artisan ou d'ouvrier du dessin. Et les deux sont liés, c'est-à-dire le développement de cette industrie et d'autre part l'existence de cet établissement. Il y a d'autres écoles d'ailleurs, mais c'est la plus importante et c'est celle qui restera la plus mythique d'ailleurs. Mais si on regarde les revues qui paraissent en Argentine à l'époque, il y a toute une série de pubs pour des cours du soir, pour des cours par correspondance et pour des cours aussi de jour, notamment à la Panamericana. On a comme ça tout un système dans lequel cet enseignement vient s'inscrire.
Alors le jeune Muñoz, qui est un des personnages de ta thèse, va apparaître dans ce contexte, c'est-à-dire qu'il va fréquenter très jeune l'école de Lipsic. En cours du jour, en cours du soir, comment est-ce que ça se passe ?
Il fréquente en cours du jour, donc il a 14 ans. Et en fait, il voit ces publicités qui sont omniprésentes dans les revues argentines de l'époque, ces publicités qui d'ailleurs étaient dessinées par Hugo Pratt la plupart du temps. Et donc son rêve, c'est évidemment d'avoir Pratt comme professeur. Pratt, on le connaît par Corto Maltese, les Scorpions du désert et tout ce qui viendra après. Mais c'est important de savoir que Pratt va vivre pendant 13 ans en Argentine. Donc au départ, c'est un jeune dessinateur profondément marqué par Milton Caniff, lui aussi. Débarque en Argentine parce que contrairement à l'Italie qui vient de perdre la guerre et qui est dans une situation économique absolument épouvantable, l'Argentine apparaît comme une espèce d'Eldorado dans ces années d'après-guerre. On est dans un pays dont on a dit, je suis pas économiste, mais dont il avait le potentiel de développement économique qui sera celui de l'Australie à ce moment-là. Malheureusement, le pays ne connaîtra pas le même développement ni économique ni humain par la suite. Mais toujours est-il qu'à l'époque, c'est une forme d'Eldorado, et puis pour un auteur de bande dessinée, c'est pas le travail qui manque. Et donc Pratt va s'inscrire pleinement dans la logique de ce qu'on appelle l'historieta argentina, donc la bande dessinée argentine, dont Muñoz dira d'ailleurs qu'il y a un peu de pan, en quelque sorte, ce qu'il appelle la planète quinternienne, en faisant référence à Dante Quinterno, qui s'imaginait un peu comme une sorte de Walt Disney argentin, qui va notamment inventer un personnage qui s'appelle Pato Ruzzu, qui est un indien patagon à la force colossale, et qui clairement a influencé Oompapa et Astérix, et Goscinny a vécu pendant plusieurs années à Buenos Aires. À mon avis, ça ne peut pas être un hasard. On est un petit peu là, Pato Ruzzu est une sorte de chaînon manquant entre Astérix et Popeye. Enfin voilà, on arrive dans une subdivision qui est un peu celle qu'on retrouvait aux États-Unis et qu'on va retrouver en Europe francophone entre une bande dessinée dite humoristique, que Muñoz appelle la planète quinternienne et qui donnera la bande dessinée argentine la plus connue, c'est Mafalda, mais qui arrivera beaucoup plus tard, au début des années 60. Et puis ce qu'on appelle communément la bande dessinée réaliste, ou cette bande dessinée marquée par la mimésis référentielle, qu'il appellera, lui, l'astre sereldien. Je reviendrai peut-être après sur ce terme. Mais donc, dans cet astre sereldien, dans cette bande dessinée d'aventure, une bande dessinée qui décline les différents genres, qui crée une forme d'illusion de la réalité, Pratt est un auteur important, mais est aussi un des premiers auteurs à s'émanciper de cela. C'est-à-dire qu'il va petit à petit s'émanciper de l'influence de Caniff pour arriver vers quelque chose qui va être de plus en plus épuré. Et cette épure, qui peut apparaître comme une recherche esthétique qui sera admirée par la suite, est aussi pleinement liée aux contraintes de production. C'est-à-dire que Pratt est lui aussi un ouvrier dans cette industrie de l'historietta. Et donc en plus, il n'aime pas trop travailler ou pas trop longtemps. Il a des tas de conquêtes féminines avec qui il disparaît parfois pendant une semaine, 15 jours. Pour prendre du bon temps, il doit travailler extrêmement vite. Et donc il met au point des techniques de raccourci, de manière de pouvoir dessiner assez rapidement, qui l'amène à épurer son dessin et à créer ce style si personnel qu'on lui connaît. Et donc Munoz est profondément marqué par Pratt, hein, comme d'ailleurs toute une génération de dessinateurs qui ont le même âge. Donc Munoz est né en 43, donc voilà, il est tout jeune après la guerre. Il lit tout ce qui paraît à ce moment-là, et donc il est très marqué par Pratt. Et donc quand il arrive à la Panamericana quand il a 14 ans, bah, le but c'est d'avoir Pratt comme professeur. Sauf que quand il arrive à la Panamericana, il aperçoit effectivement Pratt, mais qui est en train de vider son armoire, et il annonce bah, « Désolé, mais c'est pas moi qui vais te donner cours, c'est mon collègue, et ce collègue c'est Alberto Breccia ». Donc Breccia, dessinateur d'origine uruguayenne, mais qui va faire toute sa carrière en Argentine, qui va être le professeur et le mentor de Munoz. Alors là aussi, Breccia, c'est une autre forme d'émancipation par rapport au code dominant de la bande dessinée argentine, encore que ce n'est pas le cas encore au moment où Munoz l'a comme professeur. C'est-à-dire que c'est encore un dessinateur qui est surtout connu pour une série policière aux accents fantastiques qui s'appelle Vito Nervio, avec un policier argentin qui est accompagné d'un sidekick afro-américain qui évoque d'ailleurs le lotard qu'on voit dans Mandrake, qui relève d'un artisanat de bonne qualité, de récits bien ficelés. Mais Breccia, par la suite, va évoluer et va devenir ce qu'on connaît, c'est-à-dire cet auteur qui va développer une forme d'expressionnisme complètement halluciné, qui va être dans une déconstruction assez radicale de la narration. Quand Munoz, là, comme professeur, c'est pas encore ce Breccia-là, mais il est déjà là en latence. Et autant la Panamericana telle qu'elle fonctionne dans ses idées est effectivement de forger en quelque sorte des ouvriers de l'industrie de l'historietta, autant Breccia est quelqu'un qui a assez peu d'estime finalement par rapport à des élèves assez laborieux, et donc ceux qui s'émancipent un petit peu, qui arrivent dans une forme de stylisation, de mise à distance de cette mimésis, hein, de cette volonté d'essayer de représenter le monde tel qu'il est ou tel qu'on pense qu'il est. Lui, il est très intéressé à partir du moment où il y a certains élèves qui sortent un petit peu des cadres, et si on voit les premiers dessins que Munoz réalise à cette époque-là, ils sont peut-être pas révolutionnaires, mais ils sont déjà très marqués par Pratt, et témoignent déjà d'une volonté de ne pas être dans une forme de réalisme plat et impersonnel.
Peut-être une petite parenthèse sur ces écoles. Est-ce que ça marche ? Je veux dire, est-ce qu'on peut produire, avec une vue industrielle, une génération d'auteurs qui est faite pour prendre une place qu'on estime quasiment éternelle ? Il y a une idée que le genre va continuer et qu'on va lui fournir juste de quoi nourrir la machine et faire cracher du comics. Et donc, est-ce que cette école fonctionne ? Est-ce qu'elle réussit à faire ça ?
Ben, elle fonctionne tant que l'industrie de la bande dessinée argentine fonctionne. Enfin, les Argentins parlent des dates de oro, donc d'âge d'or. Bon, alors les âges d'or, c'est toujours un petit peu un cliché. Hein. Mais toujours est-il qu'effectivement, on a une industrie qui est florissante, et donc tant qu'elle marche, effectivement, l'école amène des nouveaux dessinateurs, parce qu'on en a besoin, parce que le développement des titres est exponentiel, et donc, jusqu'à la fin des années 50, effectivement, il y a du travail pour tout le monde. À partir du moment où la situation économique va commencer à se détériorer, que les chiffres de vente vont plonger de façon spectaculaire, la finalité de cette école commence à être mise en cause.
Dans ta thèse, on a l'impression qu'il y a une grosse partie de la production argentine qui est orientée sur des histoires historiques dans lesquelles le pays est glorifié, ainsi que des figures pseudo-historiques.
Oui, bon, si on définit un petit peu le contexte politique, donc dans ces années 40 jusqu'au milieu des années 50, l'Argentine est dirigée par Juan Domingo Perón, qui est un régime assez hybride et assez difficile à envisager, en tout cas depuis l'Europe, puisque Perón était clairement un admirateur de Mussolini. Il a fait venir en Argentine aussi toute une série de dignitaires nazis, ce qui avait là sans doute des cerveaux à récupérer, mais notons quand même que finalement les Soviétiques et les Américains vont faire la même chose. Donc on a un régime fort, on a un régime autoritaire, ce qu'on pourrait appeler un régime populiste, c'est d'ailleurs, semble-t-il, du régime de Perón que ce terme aujourd'hui utilisé à tort et à travers est venu. Enfin, ce serait ça un petit peu la matrice du populisme. Mais il faut reconnaître qu'en dépit des sympathies de Mussolini pour des régimes qui sont clairement des régimes d'extrême droite, On ne peut pas nier qu'il y a un développement économique certain. Jusqu'alors, les dictatures qui l'avaient précédé, en fait, l'économie était confisquée par des trusts étrangers. Là, il y a une forme de nationalisme très fort, mais aussi une évolution du niveau de vie de la population qui est indéniable, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir par rapport à ce régime-là. Donc on a l'idée aussi, enfin dans l'esprit de Perón, c'est la construction d'une nouvelle Argentine, donc il y a l'idée d'un dynamisme, de la construction d'un pays qui effectivement se sent pousser des ailes. Dans les années d'après-guerre, l'Argentine est une des premières puissances économiques mondiales, ça ne durera pas très très longtemps, bon, qui est lié au fait que les pays européens sont exsangues. Mais toujours est-il qu'il y a dans cette époque-là l'idée d'un peuple en marche qui est en train d'écrire sa propre histoire et qui est en train de contribuer, chaque individu, chaque Argentin est en quelque sorte un artisan qui contribue à un projet plus vaste qui est celui de construire une nation nouvelle et importante au niveau mondial. Et la bande dessinée, l'historieta, elle participe de manière consciente ou pas suivant les responsables éditoriaux, mais on sent très bien à la lecture de ça que ça y participe. Et il y a notamment dans la bande dessinée argentine un style qui est le récit de gaucho, qui est l'équivalent en quelque sorte latino-américain du western, et qui crée là aussi une forme de mythologie nationale, même si ça reprend dans le western cette idée de grand territoire, d'amitié virile, mais il y a une volonté en tout cas là aussi d'un pays qui est en train d'écrire ses propres mythes.
Alors au milieu de toute cette histoire et de ces personnages, tu fais émerger Hector Oosterheld, tu me corrigeras sur la prononciation, qui est un scénariste qui va à un moment donné faire travailler Munoz.
Ouais. Alors, les Argentins, ils prononcent ça Oosterheld. Voilà. Mais il est d'origine allemande, donc ses aïeuls devaient s'appeler Oosterheld. Mais donc Hector German Oesterheld, donc scénariste mythique, hein, là aussi, si vous parlez avec des amateurs de bande dessinée en Argentine, c'est la figure qui va venir en premier lieu avant Kino, avant Pratt, avant Breccia, avant Munoz et Sampaio. Oesterheld, au départ, donc, est un scénariste, je l'ai déjà dit, par rapport à Breccia, par rapport à Pratt, sont des gens qui d'une certaine manière commencent à déplacer un petit peu les cadres, et lui aussi va le faire à travers le scénario, tout en s'inscrivant dans des genres très codés, hein, du western, de la science-fiction, du récit d'aventure maritime, du récit de guerre. On peut dire, s'il y a une formule qui résume un petit peu la démarche d'Oesterheld, c'est de passer d'un récit aventureux qui est moins la restitution d'un conflit extérieur que d'un conflit intérieur. Souvent, c'est des récits plutôt lents. L'intrigue est reléguée assez régulièrement au second plan, au profit d'une exploration de l'intériorité des personnages. Ce qui est typiquement le récit oesterheldien, c'est la rencontre, par exemple, entre un soldat allemand et un soldat anglais qui, plutôt que se faire la guerre, comprennent très bien qu'eux aussi ont une famille, eux aussi ont des enfants, et que finalement, ils se retrouvent tous les deux embarqués dans un conflit absurde qui les dépasse complètement et qui, plutôt que commencer à se tirer dessus, s'asseyent sur une pierre et commencent à dialoguer. Ça, c'est typiquement le genre de récit que Oesterheld va mettre en place.
Il a une production assez pléthorique et donc il va engager Munoz parmi d'autres personnes.
Oui, dans les années 50, la création des éditions Frontera, dont Oesterheld sera l'éditeur, c'est-à-dire que bon, c'était un scénariste prolifique et à succès, il décide à un moment donné de lancer sa propre maison d'édition. Il y aura plusieurs titres, hein, donc, dont les deux plus connus sont Frontera et Horacero, mais il y aura 5 ou 6 titres différents, qui sont soit des mensuels, soit des hebdomadaires. Frontera, c'est 6 titres différents pour lesquels il réalise quasi l'intégralité de tous les scénarios. Donc c'est absolument colossal. Et effectivement, c'est là qu'on va trouver Munoz pour la première fois. Ce qui va vraiment mettre le pied à l'étrier de Munoz, c'est le moment où il travaille sur El Eternauta, l'Éternaute, hein, qui est paru en français aujourd'hui aux éditions Rackham. Munoz était étudiant à la Panamericana. Sa famille tombe dans la déchéance financière. Lui qui est plutôt issu d'un milieu de petits commerçants, petits bourgeois, mais bon, voilà. Il y a des graves problèmes économiques dans sa famille. L'entreprise de vente de chaussures de son père périclite, et puis le personnage joue beaucoup et fait des tentatives de suicide. Donc voilà le contexte. Il n'y a plus d'argent pour pouvoir payer les cours de la Panamericana. Et donc les professeurs, les directeurs de l'école lui trouvent une solution, c'est-à-dire qu'il aille travailler comme assistant de Francisco Solano López, qui est donc le dessinateur de L'Éternaute, hein, l'Éternauta, qui paraît dans Horacero Semanal, qui est un des titres d'Oesterheld. C'est assez intéressant parce qu'en fait, l'Éternauta est vraiment la bande dessinée qui est citée en référence toujours aujourd'hui en Argentine. Hein. Buenos Aires et sa région est imbibée d'une forme de nostalgie d'une grandeur disparue, et donc l'Éternauta apparaît toujours comme l'espèce de sommet définitivement inaccessible, et qui est un récit de science-fiction qui se déroule à Buenos Aires, une invasion extraterrestre. L'argument est assez conventionnel, mais il y a un effet feuilleton qui fonctionne à plein. Il y a une atmosphère, on retrouve pleinement la ville là-bas. Quelque chose de très angoissant qui dessine déjà la situation politique qui va devenir de plus en plus problématique par la suite. Donc il y a une angoisse là, qui transpire dans cette histoire-là. C'est une histoire aussi qui est construite sous la forme d'une boucle. Donc c'est assez intéressant comme construction scénaristique et qui continue aujourd'hui, plus de 50 ans après sa parution, presque 60 bientôt, à être abondamment analysé par les chercheurs argentins. Donc Muñoz arrive en quelque sorte à la fin de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or, avec toutes les guillemets qu'il faudrait mettre là, mais qui est un petit peu l'œuvre la plus emblématique de cette période, mais qui sonne aussi en quelque sorte le glas de cette grandeur de l'industrie de la bande dessinée argentine. Peu de temps après, en fait, la situation économique se détériore. Beaucoup d'auteurs vont travailler pour l'étranger, notamment pour le marché britannique. Enfin, Pratt, Breccia notamment, vont essentiellement travailler pour les Anglais. Les rapports avec Oesterheld ne sont pas évidents. Visiblement, il y a eu des problèmes de gros sous qui ont parasité les relations qu'il avait avec les différents auteurs importants. Et donc, à un moment donné, les publications Frontera qui vendent de moins en moins sont obligées de trouver des nouveaux auteurs. Et en gros, on va aller les chercher chez les jeunes étudiants fraîchement sortis de la Panamericana, et en ce y compris José Muñoz.
Alors, quand il commence à travailler sur El Eternauta, il a 16 ans, il est vraiment tout jeune. Et quel type de rapport Oesterheld entretient avec ses dessinateurs ?
Et c'est compliqué et ambigu. Alors, si on lit les interviews d'Oesterheld, où il y a une petite part de mégalomanie dans ses propos, mais il semble dire perpétuellement que, en gros, une bande dessinée tient d'abord à travers la grandeur du scénario et que le dessinateur est une sorte d'ouvrier qui est mis au service de ce scénario-là. Et dans les interviews, Oesterheld souvent semble dire qu'en gros, il dispense ses scénarios et puis les dessinateurs les mettent en image, mais il n'y a pas véritablement de relation entre eux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne la plupart des binômes dessinateurs-scénaristes à l'époque dans l'industrie de la bande dessinée argentine. Dès qu'aux États-Unis, c'était pas différent non plus, et je suis pas sûr qu'en Europe, il y avait de grandes nuances par rapport à ça. Donc on était dans cette logique assez fordiste où il y a un dessinateur qui transmet son scénario au rédacteur en chef, qu'il transmet à un dessinateur qui le met en image. Sauf que les témoignages aussi bien de Pratt, de Breccia ou de Muñoz ne vont pas tout à fait dans ce sens-là, et présentent étonnamment Oesterheld sous un jour peut-être plus favorable que la manière un peu arrogante dont il se décrivait lui-même. Et disent tous d'ailleurs que Oesterheld était justement très différent des autres scénaristes, parce que justement c'était quelqu'un avec lequel il était possible de dialoguer, où on n'était pas uniquement dans cette espèce de rapport très, très formalisé, mais qu'il y avait un véritable dialogue, un véritable échange qui pouvait s'installer. Et on sent bien d'ailleurs dans les premières bandes dessinées de Muñoz, si on regarde un petit peu tout ce qui paraît dans les revues à ce moment-là, j'ai le sentiment que Oesterheld confiait déjà à Muñoz des histoires qui étaient peut-être plus adaptées à sa sensibilité. C'est des récits qui sont souvent moins bavards. C'est-à-dire que quand on a un dessinateur qui est médiocre ou dans lequel on n'a pas beaucoup confiance, on met énormément de texte, on se dit qu'il va pouvoir représenter la scène de façon plus ou moins crédible, mais en gros le texte sert de structure à l'ensemble et permet d'évoluer. D'emblée, chez Muñoz, même dans ses premières bandes dessinées quand il a 18-19 ans, déjà là on a des scénarios qui sont plus aériens, qui sont moins bavards, qui fonctionnent moins de nouveau sur la relation d'une intrigue que sur l'exploration de l'intériorité des personnages.
Travailler pour Frontera, c'est devoir travailler vite, et ça va être vraiment les années décollage de Muñoz. Et on parle à un moment donné dans ta thèse d'une cadence de 20 pages en 3 semaines, qui sont vraiment évidemment une forme d'économie qui oblige à trouver des solutions plastiques et donc qui vont pousser Muñoz à trouver les siennes propres.
Oui, mais il y a eu l'expérience de Pratt avant. Mais c'est vrai que c'est une école qui est terrible. Et pour en avoir souvent discuté avec lui, en revoyant les bandes dessinées de cette époque-là, bon, il est tout jeune et je pense qu'il y a des tas de choses qui sont absolument pas du tout infamantes là-dedans. Mais il dit ah mon Dieu, je vois cette page-là, j'ai honte, j'ai de la honte. Hein, c'est ce qu'il dit souvent. Oui, parce qu'il est obligé d'aller très vite. Et donc le but premier est d'abord de livrer ses pages à temps et à heure. Et donc ça implique effectivement qu'à certains moments, il y a des choses qui sont un petit peu inégales. Mais assez vite, il en tire un parti intelligent, c'est-à-dire qu'il m'expliquait, à un moment donné, j'ai compris que j'essayais de repérer dans le scénario qu'on me donnait les séquences qui étaient les plus intéressantes à dessiner, et puis il y avait en quelque sorte des cases intermédiaires qu'on allait se dépêcher de dessiner en espérant avoir terminé dans les délais impartis. Donc d'emblée, de prendre quelques morceaux de bravoure, ce que Pratt faisait aussi. Mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, on voit qu'il y a certaines séquences où effectivement il n'y a quasiment pas de décor. Il y a des histoires qui sont totalement dépouillées et où on sent pertinemment bien que le dessinateur n'a pas eu le temps de faire les décors, parce que dans les premières cases il est très abondant, et puis dans les dernières l'histoire se termine sur un fond quasi entièrement blanc. Je pense que tout ça va être extrêmement formatif, c'est-à-dire que comme Pratt, comme Breccia de manière différente, les contraintes de production sont des contraintes formatrices et qui vont créer une esthétique en fait. Cette manière de travailler sur le noir et blanc, cette manière de parfois jouer sur les pleins et les vides, quelque chose qui va se construire aussi dans ce cadre contraignant, dans cette nécessité de dessiner très vite, de finalement trouver des solutions inédites qui sont imposées par le rythme de production.
Pendant une analyse des images du jeune Munoz, tu cites dans ta thèse une peinture bien connue de Paolo Uccello qui est « La bataille de San Romano ». Alors elle est surtout connue pour sa composition, toute la partie supérieure est structurée par un rythme de lance dressé et penché. Tu rapproches cette peinture d'une composition spatiale de Munoz dans Los Amigos. On imagine bien que ce rapprochement est plutôt de toi et que Munoz, qui a encore à ce moment-là un peu plus de 20 ans, n'a pas encore un background classique qui lui permet de citer consciemment ce type de peinture.
Citer une peinture, non. C'est-à-dire que si je parlais d'Uccello à ce moment-là, c'était simplement pour expliquer que Munoz, lui aussi, travaille sur un jeu de lignes. Donc il envisage clairement la bande dessinée, non pas comme une succession d'images isolées, mais que la planche est une forme de tableau, est une composition avec des pleins, des vides, des respirations, et puis toute une série de lignes de force comme Uccello a pu le faire dans sa toile. Ceci posé, Munoz est certes très jeune, mais il a déjà un bagage qui est très abondant. Il a suivi des cours de la Panamericana, il a accès à tout ce qui paraît en Argentine à l'époque, y compris pas mal de bandes dessinées américaines très célèbres. Il a aussi accès, grâce à son ami Oscar Zárate, qui deviendra plus tard dessinateur et qui travaillera notamment avec Alan Moore. Zárate travaille pour les éditions Abril et qui se charge notamment de distribuer les bandes dessinées américaines en Amérique du Sud, donc il voit passer un tas de choses. Ce qui n'empêche pas aussi d'avoir une culture, on va dire, plus classique, puisqu'il a notamment été l'élève, enfin l'assistant d'un sculpteur qui s'appelle Ser Antonio, avec lequel il va travailler en parallèle avec ses cours à la Panamericana. Et Ser Antonio était passionné de culture italienne et notamment toute la culture de la Renaissance. Donc je ne serais pas étonné, je ne pense pas qu'il y ait dans Los Amigos qu'il y ait une influence directe d'Uccello sur le travail, mais je ne serais pas étonné que Munoz ait déjà vu ça et l'ait assimilé.
Alors l'aventure Frontera pour Munoz va être à la fois riche, puissante dans la cadence de travail, mais elle va être aussi assez rapide. Je crois qu'il va travailler environ 5 ans pour Frontera, et Frontera va ensuite se péter la figure, et laissant Munoz toujours dans une situation difficile au niveau du pognon, et il va devoir aussi trouver d'autres moyens de survivre.
Oui, donc Frontera se casse la gueule complètement. La chute a été aussi rapide que l'ascension. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va alterner en fait des périodes où il va produire ses propres bandes dessinées et d'autres où il va travailler comme assistant pour Solano Lopez. Ceci dit, il rebondit relativement vite, puisque début milieu 60, on va le retrouver au sommaire d'une revue qui s'appelait Mysterix, qui existait bien avant, qui existait avant les éditions Frontera et qui elle aussi avait des tirages assez considérables, donc qui existe toujours, qui n'est plus aussi populaire qu'elle l'était par le passé, mais il se passe des choses assez intéressantes, et notamment par le fait que Hugo Pratt est le rédacteur en chef de cette revue Mysterix. Et donc le boulot de Pratt consiste en grande partie à mettre en place des binômes, à trouver le scénariste qui peut fonctionner avec le dessinateur un tel. Dans cette logique-là qu'on connaît aussi dans les revues de bande dessinée européennes, se pose la question à un moment donné d'une sorte d'écosystème avec un western, avec un récit de guerre, et puis ouais, il nous manque un policier là-dedans. Alors il y a dans les scénaristes attitrés de Mysterix un commissaire de police qui s'appelle Eugenio Sapietro et qui signe Ray Collins. Pratt propose à Collins de créer un récit policier, il n'a jamais fait ça, mais il dit « Ouais, non, tiens, fais-le, ok, je sais le genre de truc que tu peux faire, ok, quel dessinateur on peut prendre pour faire ça ? Bah, le petit Munoz, là, le petit jeune, peut-être qu'il est bien aussi pour faire ça. » Donc il va créer là un récit policier, un roman noir, en bande dessinée qui préfigure déjà largement ce que sera Alex Sinner, qui apparaîtra une dizaine d'années plus tard, créé en 74 et publié pour la première fois en 75. C'est un récit qui encore reste dans la logique de genre, reste dans une logique feuilletonesque, mais de nouveau déjà assez intéressant sur le plan graphique. On voit déjà que Munoz teste toute une série de solutions graphiques, et peut-être ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une forme de rejet du savoir-faire déjà. On sent bien qu'il essaye d'oublier son bagage technique pour travailler davantage sur la composition des images, pour davantage travailler l'expression de ces images aussi, quitte à devoir essayer des solutions qui parfois peuvent apparaître un petit peu bancales. Mais de nouveau, c'est un laboratoire assez passionnant, et relire ça aujourd'hui est extrêmement intéressant, notamment parce que ça reste une très bonne BD de genre, et d'autre part parce qu'on sent toute une série de tâtonnements, d'essais divers qui donneront le Munoz que connaissent tous les amateurs de bande dessinée.
Je crois qu'on n'a pas donné le nom de cette série et aussi quelle durée elle couvre dans le travail du Munoz.
Oui, donc elle s'appelle Precinto 56, donc Precinto 56, qui est en fait l'adresse du commissariat de police où travaille un détective qui s'appelle Zero Galban, qui est donc ce pré-Alex Sinner. Il va le dessiner pendant à peu près un an, de 64 à 65, mais ça couvre pas très loin de 200 pages.
Arrivé à cet endroit dans ta thèse, tu fais une saute et tu nous présentes le deuxième personnage de ton étude, qui est Carlos Sampaio, dont le parcours est assez différent de celui de Munoz, à tel point qu'ils ne se rencontreront pas à Buenos Aires, mais à Barcelone des années plus tard. Ça sera pour notre prochaine capsule.